Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Dans ce journal, le calendrier de la fin des restrictions sanitaires annoncé ce soir par Jean Castex, tout va se jouer en février. Le pass vaccinal, c'est pour lundi prochain. Le pass sanitaire, c'est terminé. Le seul sésame sera désormais le vaccin. L'horizon s'éclaircit enfin pour le monde du spectacle et les boîtes de nuit qui vont rouvrir. Vous entendrez la réaction de la patronne du Zénith de Paris. Des bonnes nouvelles, c'est certain. À moins de 3 mois de la présidentielle, c'est un fait. Le gouvernement prépare l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. On va y revenir. Le temps pour demain, attendez-vous à une nouvelle chute des températures avec des gelées fréquentes au petit matin. L'invité éco, nous serons avec le patron de la filiale française du groupe informatique Cisco. Et puis en avant-première, on découvrira les unes des quotidiens demain matin.
Europe 1.
Un tunnel nommé Covid. Cette fois, c'est peut-être le bout. La vague Omicron est toujours au plus haut, 425 000 cas en 24 heures, mais le reflux est proche. Jean Castex a annoncé ce soir son calendrier des bonnes nouvelles, la feuille de route pour la levée des restrictions sanitaires. Tout va se passer en fait au mois de février. Jean Castex.
À compter donc du mercredi 2 février, tous les équipements, notamment sportifs et culturels, qui accueille du public assis pour en retrouver un fonctionnement à pleine capacité, sans jauge, en respectant cependant l'obligation du port du masque. À cette même échéance, le télétravail ne sera plus obligatoire, mais restera recommandé en laissant aux entreprises le soin de maintenir le bon niveau dans le cadre de leur dialogue social interne. Le port du masque ne sera plus exigé en extérieur. À compter du mercredi 16 février, nous lèverons les autres mesures. La consommation dans les stades, les cinémas ou les transports sera à nouveau autorisée. Les concerts debout et la consommation debout dans les bars pourront reprendre. Les discothèques pourront rouvrir.
Les boîtes de nuit pourront donc ouvrir à partir du 16 février. Elles étaient de nouveau fermées depuis le 10 décembre dernier et donc pendant toute la période des fêtes. Jean Castex n'a pas été aussi précis sur le protocole sanitaire à l'école à l'origine d'une grève des enseignants, mais ce protocole pourrait être allégé à la rentrée des vacances de février, selon le Premier ministre, en ce qui concerne le port du masque pour les élèves et le nombre de tests à réaliser. Un autre temps fort des annonces de Jean Castex ce soir, c'est la mise en place du pass vaccinal. Céline Géraud est là. C'est pour lundi prochain.
Oui, effectivement, le pass vaccinal va remplacer le pass sanitaire. Lundi, il sera donc obligatoire pour les plus de 16 ans. Il faudra avoir un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire 3 doses, ou un certificat de rétablissement si vous avez été contaminé durant les 6 derniers mois. Les non-vaccinés ne pourront donc plus aller au restaurant, au cinéma, au musée, ou encore se déplacer en bus, en train ou en avion avec un simple test négatif. Un test négatif suffira en revanche, et c'est la seule exception, pour aller dans les hôpitaux, les EHPAD et les établissements de santé. Enfin, pour les 12-15 ans, le pass sanitaire reste valable.
Alors, on a entendu le Premier ministre insister sur ce point. Le vaccin a changé la donne. Jean Castex a aussi fait des annonces ce soir pour compléter la couverture vaccinale des Français. Avec cette main tendue du Premier ministre en direction des non-vaccinés, Céline, c'est en quelque sorte une offre de rattrapage.
Oui, et c'est clairement une incitation supplémentaire pour pousser les non-vaccinés à sauter le pas. L'exécutif offre la possibilité d'obtenir un pass vaccinal à tous ceux qui feront leur première injection avant le 15 février et sous 2 conditions. Réaliser la 2e injection dans un délai d'un mois, mais aussi présenter un test négatif de moins de 24 heures pour pouvoir accéder dans l'intervalle aux différents lieux soumis au pass vaccinal. Jean Castex l'a rappelé ce soir, seuls 7% des adultes ne sont toujours pas vaccinés et ils représentent l'écrasante majorité des patients hospitalisés dans les services de réanimation.
Céline Géraud, chef du service société d'Europe 1. Autre annonce encore de Jean Castex ce soir. Dès lundi prochain, tous les adolescents de 12 à 17 ans pourront recevoir un rappel vaccinal. Je dis bien pourront car il n'y aura pas de caractère obligatoire. De la même façon, la vaccination des 5-11 ans reste facultative, mais le Premier ministre a encouragé ce soir les parents à faire vacciner leurs plus jeunes enfants. Pharmaciens et infirmiers pourraient d'ailleurs bientôt s'en charger. Comment toutes ces nouvelles sont-elles accueillies ? On est allé à la rencontre des piétons masqués dans les rues de Paris. Reportage Caroline Baudry.
Globalement, mentalement, ça nous ferait tous du bien.
Le sourire d'Inès, 18 ans, à l'idée de retrouver la vie d'avant, consommer debout dans les bars, danser en discothèque. François et Aurélien seront, dès que possible, sur la piste de danse.
Ouais, là, ça fait un moment.
Hâte d'y retourner. Hein.
De pouvoir s'amuser. Les mesures sont vraiment super sympas et on en avait un peu marre du Covid.
On va pouvoir remanger du pop-corn au moins dans les cinémas.
Et faire tomber le masque en extérieur aussi, un soulagement pour Firas, 21 ans, malgré un air de déjà-vu.
En quelque sorte, ouais, c'est un peu tôt de crier victoire. C'est toujours comme ça, des fois il ferme, des fois il ouvre, après il referme, après il réouvre. Donc pareil pour le masque.
Seule chose que ces jeunes pourraient regretter, le télétravail obligatoire qui rythme leur vie depuis presque 2 ans.
Et voilà pour ces premières réactions recueillies par Caroline Baudry ce soir dans les rues de Paris. Après un nouvel hiver sous restriction, l'horizon s'éclaircit enfin pour le monde de la culture et du spectacle. 2 février prochain, donc, c'est la fin des jauges. Les salles pourront à nouveau recevoir le public à pleine capacité. Lily Fischer est la patronne du Zénith de Paris et ce soir, elle respire.
C'est déjà une bonne nouvelle. On est plutôt content d'avoir un calendrier. On le savait que des restrictions de 3 semaines, c'était illusoire. On l'avait vu pour les discothèques. On se doutait très bien que ça allait durer un peu plus longtemps. Mais c'est déjà un bon signal donné par le gouvernement pour les producteurs et les artistes qui vont pouvoir se projeter dans leur tournée, pour le public qui va pouvoir repenser à venir dans les salles de spectacle et à racheter des billets, puisque là, tout est à l'arrêt depuis plusieurs semaines. Donc, on considère quand même que la météo s'éclaircit.
Lily Fischer, directrice du Zénith de Paris avec Marie Jiquel. On a entendu le Premier ministre il y a un instant. À partir du 2 février, ce sera aussi la fin du télétravail obligatoire. Le gouvernement continuera de recommander cette pratique, mais il s'en remettra à nouveau au dialogue social dans les entreprises. De quoi soulager Laurence Breton-QNI, vice-présidente de l'Association nationale des DRH.
C'est une bonne nouvelle d'avoir une visibilité. C'est bien pour le lien collectif que tout le monde puisse être ensemble sur le site, en tout cas un peu plus souvent. Même si on est bien d'accord qu'on va continuer à travailler en mode hybride. Ce n'est pas parce qu'il n'y aura plus un protocole national qui nous obligera à faire du télétravail que nous n'en ferons pas. Mais pour autant, 3-4 jours, ça fait quand même beaucoup par semaine. Donc aujourd'hui, on va écouter les attentes. Et c'est vrai que d'avoir un peu plus de présentiel, ce sera quand même mieux pour les uns et les autres.
Laurence Breton-QNI de l'association des DRH avec Wilfried De Villers. Le calendrier de ces annonces a été soigneusement étudié, mais la façon de les présenter aussi. Ce n'est pas un hasard si Jean Castex lui-même s'est chargé des annonces et non pas le porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre en première ligne, cela met l'accent sur des nouvelles positives, la fin des restrictions sanitaires. Alexandre Chauveau, on peut dire que le gouvernement prépare le terrain, Alexandre, pour l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron.
Oui, avec cette levée programmée des restrictions, l'objectif est clair, montrer que la stratégie du gouvernement a fonctionné et que les mesures prises en fin d'année dernière ont porté leurs fruits. Emmanuel Macron compte ainsi apparaître comme un président capable de prendre des décisions impopulaires, mais aussi de desserrer l'étau lorsque la situation le permet. Le chef de l'État avait officieusement conditionné son entrée en campagne à la baisse de l'épidémie. L'amélioration de la situation sanitaire devrait ainsi contribuer à accélérer sa décision. À l'Élysée, on confie que plus rien ne le retient désormais pour se porter candidat à sa réélection. La majorité a d'ailleurs été missionnée pour défendre son bilan en insistant sur la gestion de la 5e vague, pourtant très critiquée par les oppositions. Ordre a également été donné d'éviter la moindre polémique, comme celle autour des vacances de Jean-Michel Blanquer cette semaine. En clair, Emmanuel Macron attend que l'horizon soit parfaitement dégagé pour officialiser sa candidature. Celle-ci devrait intervenir dans les toutes prochaines semaines.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Éric Zemmour enregistre un nouveau ralliement en provenance des rangs de Marine Le Pen. Après le patron des eurodéputés RN, Jérôme Rivière, hier, Damien Rieu rejoint à son tour le candidat de Reconquête, fondateur de Génération Identitaire. Damien Rieu est un proche de Marion Maréchal, il militait donc jusqu'ici au RN. Le parquet demande la condamnation d'Éric Zemmour, jugé aujourd'hui en appel pour contestation de crimes contre l'humanité. Le candidat avait été relaxé en première instance, mais l'avocat général demande d'infirmer ce jugement. Il réclame une amende de 10 000 euros. La décision a été mise en délibéré à l'issue du second tour de la présidentielle.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
On revient maintenant sur ce terrible accident de la route causé par le verglas et qui a coûté la vie à 4 lycéens hier soir. Ça s'est passé dans le Jura. 4 camarades pris au piège de leur voiture qui a sombré dans un lac. Ils étaient tous scolarisés au lycée de Champagnole. Ce drame a particulièrement touché la population. Nina Droff, leurs camarades, leurs proches ont été pris en charge.
Oui, dans le Jura, l'émotion est immense. Du côté des habitants, c'est la sidération et c'est aussi très difficile pour les camarades de classe des quatre adolescents décédés. Une cellule psychologique a été mise en place dans le lycée. Le recteur de Besançon, Jean-François Chanet, s'est rendu ce matin dans l'établissement.
Je peux vous assurer que tous les détails ont été pris en compte. Des choses aussi matérielles que l'absence dans une chambre, le lit vide. Il va falloir vivre avec cela, échanger le cas échéant, l'organisation des choses pour rendre cette absence moins douloureuse.
D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est bien le verglas qui a fait virer de bord le véhicule, qui a ensuite fini sa course dans le lac quelques mètres plus bas. Il circulait sur une route particulièrement piégeuse en hiver, selon le procureur de Lons-le-Saunier, Lionel Pascal.
Les phénomènes de verglas ou de glace peuvent y rester de manière extrêmement pérenne. Autre élément piégeant, lorsqu'on s'avance sur la route et avec juste les éclairages d'un véhicule, on ne voit pas du tout que cette route est totalement verglacée.
Seul un des passagers de 17 ans, celui assis au milieu à l'arrière du véhicule, est parvenu à s'extraire. Il est encore hospitalisé en hypothermie et en état de choc.
Nina Droff. Cette épidémie-là est plus silencieuse, mais elle mine les éleveurs de canards et de volailles. Pour eux, le scénario catastrophe de l'année dernière se répète. La grippe aviaire se propage à toute vitesse. Elle ne laisse plus le choix. Plus d'un million de volailles devraient être abattues à titre préventif dans le sud-ouest. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Agriculture. Ce virus de la grippe aviaire est apporté comme chaque année par les oiseaux migrateurs. Joël Limousin est le vice-président de la FNSEA et il plaide, lui, pour une meilleure anticipation de la mise à l'abri des animaux.
Les éleveurs qui vivent ces abattages aussi massifs pour la deuxième année consécutive, psychologiquement, peuvent être complètement désemparés. À nous de prendre des nouvelles dispositions. On n'empêchera pas la faune sauvage de venir. On sait que tous les hivers, on y aura droit sur une grande partie du territoire français. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de mettre les animaux à l'abri pendant cette période qui commence dès le mois de septembre-octobre jusqu'au printemps pour arriver à tenir en attendant des évolutions de vaccination éventuelles.
Joël Limousin, vice-président de la FNSEA, avec Zoé Pallier. C'est une étape qui compte lorsqu'on est élève en classe de terminale, parfois aussi une source de stress. Il s'agit de sélectionner sur Internet ses vœux en matière d'études supérieures. On parle de Parcoursup, en clair, où aller après le bac et pourquoi faire. Parcoursup démarre donc aujourd'hui. Vous nous rappelez le fonctionnement de ce dispositif, Louise Salé.
Les élèves indiquent au maximum 10 vœux sans les hiérarchiser. Ils ont jusqu'au 29 mars pour le faire. Ils ont ensuite une dizaine de jours pour confirmer chaque choix dans la liste établie et tout valider avant le 8 avril. L'important, c'est d'émettre au moins un vœu dans une filière non sélective et ce n'est pas le cas de toutes les licences d'université publique. Thibaut Cogent est journaliste au magazine L'Étudiant.
En fait, les licences ne sont pas sélectives dans les textes. Ceci dit, il faut bien vérifier quand même sur les fiches formation des licences le taux d'accès de l'année précédente parce qu'en fait, certaines licences sont en tension, ce qui signifie qu'elles n'ont pas assez de place pour accueillir tout le monde. Et dans ces cas-là, elles vont classer les dossiers, les derniers rentreront pas.
Un élément empêche les lycéens d'être sereins face à Parcoursup, l'éventuel report des épreuves de spécialité du bac qui se déroulent en mars. Elles pourraient être déplacées en juin. Ce qui inquiète les lycéens parce que les notes de ces épreuves comptent pour Parcoursup. Certains élèves misent sur de bons résultats à ces examens pour améliorer leur dossier. Mais si ces épreuves ont lieu en juin, eh bien ce sera trop tard.
Louise Salé, c'est décidément un parcours sans faute que nous offrent les Bleus jusqu'ici dans cet Euro 2022 de handball. Pour son premier match du tour principal, l'équipe de France a battu ce soir les Pays-Bas, 34 à 24, et en l'absence du défenseur Karl Konan, testé positif au Covid. Après cette nouvelle victoire, la force tranquille de Guillaume Gilles, l'entraîneur des Bleus.
Quand on analyse par tranche et par période, il y a des périodes où on prend trop de buts, mais c'est souvent lié à notre production en attaque. En défense placée à 6 contre 6, on a quand même été très dominant dans les débats. Et c'est à la fois une très bonne chose parce qu'on en aura besoin. Il y a plusieurs options qui sont encore en travail, un peu en chantier. Mais on peut être satisfait de la prestation globale ce soir.
Et Guillaume Gilles, l'entraîneur de l'équipe de France de handball. Le temps pour ce vendredi, Marlène Duret. Eh bien, vous nous dites, Marlène, qu'il va faire nettement plus froid.
Oui, plus froid. Et puis, le ciel sera un peu variable, on va dire. Il y a vraiment que dans le sud-est et en montagne que le temps ne bougera pas ou peu. Il fera beau du Jura aux Alpes, dans les régions méditerranéennes, en basse vallée du Rhône, dans le sud du Massif central, vers le Lot, l'Aveyron, sur les sommets des Pyrénées. Mistral et Tramontane souffleront assez fort, d'ailleurs. Ils pourront accentuer cette sensation de froid dans le le sud. Et puis ailleurs, eh bien, variable, changeant donc pour la couleur du ciel, avec en général plus de nuages que d'éclaircies. Quelques pluies faibles peuvent glisser le long des frontières du nord, plutôt vers le nord Pas-de-Calais le matin, à proximité de la frontière luxembourgeoise en journée. Attention sur les routes de campagne, ça peut regeler sur les chaussées humides. Et puis Météo France prévoit aussi quelques brouillards givrants dans le nord-est le matin, et même un petit peu de neige à l'est de la Lorraine et en Alsace l'après-midi. Les gelées, parlons-en, elles se généralisent à nouveau dans les terres. Il fera souvent entre moins 3 et 0 degrés, alors que sur les côtes de la Manche et de la Méditerranée, il fera 0 à 4. Et puis les maximales en journée pour demain, 2 degrés à Vittel, 3 à Nancy et Dijon, 4 à Orléans, 5 degrés attendus à Toulouse, 6 à Lille, 7 à Paris, 8 à Brest, 9 à Marseille et jusqu'à 14 du côté de Nice et Ajaccio.
Merci Marlène, on se couvre bien, si j'ai bien compris, en sortant de chez soi
oui,
demain matin.
Pas mal de températures négatives en effet.
On vous retrouve Marlène à minuit sur Europe 1 pour un dernier point météo. Dans un instant, c'est Top à Wall Street avec Claire Lemaître. A tout de suite.
Europe 1. Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street à 22h17 sur Europe 1. Bonsoir Claire Lemaître.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com. Après deux séances dans le rouge vif clair, Wall Street a tenté de redresser la tête ce soir, mais les marchés ont finalement clôturé en forte baisse.
Oui, beaucoup de volatilité sur les marchés. La politique de la Fed et l'inflation restent au premier plan. Et l'optimisme n'a donc pas tenu ce soir. Le Dow Jones a fait marche arrière dans la toute dernière heure de cotation. Et il perd finalement 0,90%, 34 715 points. Même chose pour le Nasdaq qui termine sur une baisse de 1,3%. Ce nouveau coup de fatigue vient surtout du secteur de la tech. Amazon chute de 3%, moins 1% pour Apple, moins 1,5% pour Netflix avant la publication de ses résultats. Les résultats du jour, justement, ils sont bien accueillis pour l'assureur Travelers. L'action monte de 3,2%. Ils sont bien accueillis aussi pour la firme de services pétroliers Baker Hughes. Déception, en revanche, pour les compagnies aériennes avec des comptes trimestriels toujours plombés par la crise sanitaire. United Airlines et American Airlines lâchent plus de 3%.
Après avoir beaucoup hésité, le marché parisien, lui, a réussi à clôturer sur une petite hausse.
Oui, le CAC 40 a joué au yo-yo aujourd'hui. Il gagne finalement 0,30%, 7194 points. Du côté des valeurs, encore du mouvement pour Valneva. Le titre a chuté de 12%. Hier, il remonte ce soir. La biotech française a annoncé que son candidat vaccin contre le Covid-19 montre une neutralisation du variant Omicron. Valneva bondit de 20%, et puis Ubisoft gagne encore 2,8%. Le secteur des jeux vidéo est en ébullition depuis mardi, avec l'annonce du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Le titre Ubisoft a flambé de presque 20% en trois séances.
Et enfin, la chute du jour, elle est signée par le titre Soitec.
Soitec qui perd près de 20%. Le fabricant de matériaux semi-conducteurs a annoncé la nomination comme directeur général de Pierre Barnabé, actuellement cadre dirigeant chez Atos. Il doit remplacer Paul Boudre. Le problème, c'est que cette décision, elle est contestée par le comité exécutif du groupe. Il regrette l'opacité et la précipitation du processus de succession. Les marchés européens ont clôturé en hausse ce soir, à l'exception de Londres, qui perd un petit 0,1%. Francfort gagne 0,6, plus 0,7 pour Milan et pour Amsterdam, plus 0,4 pour Madrid. Et à Paris, le CAC 40 avance de 0,3%, 7194 points.
Merci. Claire Lemaître. C'est un leader mondial de la transformation numérique et des réseaux informatiques. Le groupe Cisco mise sur la France. L'invité éco ce soir sur Europe 1, Laurent Degré, il est le directeur général de Cisco France et il répond à Emmanuel Duteil. Bonsoir Laurent Degré.
Bonsoir Emmanuel, merci de me recevoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le patron en France de Cisco. Alors je vais résumer, ça va être très vulgarisé, mais grosso modo, c'est grâce à Cisco que l'on peut avoir Internet un peu partout dans le monde. Vous faites partie de ces grandes entreprises de la technologie américaine. Vous êtes même une sorte de dinosaure de la Silicon Valley puisque vous faites partie des toutes premières entreprises à avoir misé sur ce marché. Un pari que l'on voit aujourd'hui gagnant. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce que vous avez décidé de miser encore un petit peu plus sur la France. Vous avez décidé d'investir 50 millions de dollars pour accompagner le développement économique de la France. Alors 50 millions, ce n'est pas énorme, surtout au regard de tous les investissements que vous aviez pu faire. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous croyez fortement à la France. Vous développez régulièrement en France. Pourquoi donc la France ?
Alors c'est une très bonne question, Emmanuel. Alors avant de revenir sur ces 50 millions que vous évoquiez, C'est un investissement qui est continu. Pour rappel, et depuis 2015, c'est plus de 300 millions qu'on a investi en dehors et au-delà de notre activité sur la France. Et si vous vous rappelez, en 2015, on avait annoncé à l'époque que notre grand patron à l'époque, John Chambers, avait dit « The next big thing, la prochaine révolution du digital, c'est la France ». Et à cette époque, on avait mis de l'investissement parce qu'on voulait stimuler ce développement, cet écosystème, bénéficier de cet espace de formation qu'est la France et d'innovation. Et on avait investi principalement au travers de fonds d'investissement pour stimuler le démarrage de cette French Tech, telle qu'on l'appelle maintenant, avec de très, très beaux succès. Ce qu'on fait maintenant...
Donc, vous continuez, parce que vous y croyez, vous continuez d'investir.
Bien sûr qu'on y croit. On y croit, et pour vous le confirmer, l'innovation dans ce domaine, elle n'est pas simplement aux États-Unis, elle n'est pas simplement en Inde, par exemple. Elle est globale. Et on a besoin, dans cet environnement digital, d'innovation au sens large. Nous avons d'ailleurs en France plus d'une centaine d'ingénieurs spécialistes en termes de R&D dans la cybersécurité, dans le monde industriel. On fait effectivement des partenariats avec la France parce qu'il y a de la compétence, il y a de l'innovation, il y a un très bon système éducatif et donc il y a plein de choses à faire. C'est pour ça qu'on aime la France.
Et donc là, ces 50 millions, ils vont servir à quoi ?
Alors, on a décidé, là, au travers de ces 50 millions, de cibler, on va dire, trois axes, de décliner trois axes d'investissement qui répondent à des besoins exprimés dans le plan de relance du gouvernement. Au travers du digital, bien évidemment, mais surtout au travers pour supporter la compétitivité des entreprises. Et on a pris trois axes d'investissement. Le premier concerne, ça peut paraître loin pour vos auditeurs, mais les aspects cybersécurité, parce que la cybersécurité, la cybermenace, nous sommes leader mondial et c'est quelque chose qui est une menace pour l'ensemble de l'écosystème français. Ça va des institutions jusqu'à la PME, les collectivités locales, les hôpitaux.
Vous sentez là sur ce point qu'il y a une prise de conscience au-delà du besoin ? Puisqu'on sait que les grands groupes sont à peu près couverts. Les administrations françaises, on le voit au niveau des hôpitaux, parfois c'est quand même très léger. Et puis les PME françaises, on sait qu'elles ont été très en retard en la matière et peut-être encore plus en retard maintenant qu'en revanche, elles se sont numérisées à marche forcée pendant la crise.
Bien sûr. Alors, je reviens sur la cybersécurité. Le premier axe d'investissement, c'est la formation. On a besoin de plus de compétences. Il y a une prise de conscience, mais ça m'amène sur le deuxième axe d'investissement qui concerne les PME et les TPE. Les PME, les TPE, c'est quoi ? C'est un tiers du PIB en France, c'est plus de 50% des emplois, c'est plus de 90% des entreprises en France. Le challenge pour les PME et les TPE, une des difficultés, c'est qu'un chef d'entreprise dans une PME, il travaille sur son carnet de commandes, ses collaborateurs, son innovation. Les aspects cybersécurité et politique de cybersécurité, c'est quelque chose qui est nouveau et qui vient comme une contrainte. Donc il y a déjà un besoin de prise de conscience qui est fait maintenant. Il y a un besoin de formation et d'éducation. Il y a un besoin d'accompagnement pour amener de manière simple les entreprises, PME, TPE, à aborder au mieux la cybersécurité. C'est ce à quoi on s'engage chez Cisco.
C'est ce à quoi vous vous engagez, mais est-ce que vous les voyez aujourd'hui venir vers vos solutions ?
Ils viennent vers nos solutions, mais on va simplifier tout ça. Pourquoi ? Parce que
qu'aujourd'hui, par exemple, pour un petit patron de PME, ça paraît trop compliqué, coûteux, on ne sait pas trop ce vers quoi il faut aller pour que ce soit vraiment utile.
Bien sûr. Vous savez, on a réalisé une étude avec Ipsos il y a quelques mois où on s'est aperçu que sur l'ensemble des PME-TPE en France, un patron sur deux vous dit qu'il n'est soit pas confiant sur sa politique de sécurité, soit qu'il n'en a pas parce qu'il considère qu'il n'est pas à risque. Et là, ça revient à la prise de conscience. Ça avance, mais il faut accélérer tout ça. Et c'est très compliqué. Donc, à nous d'amener et de démocratiser l'accès à cette formation, mais aussi l'accès à ces politiques de sécurité, à ces solutions qui doivent se vendre plus simplement, être consommées plus simplement, parce que ça doit être en aucun cas une contrainte pour un patron de PME.
Je le disais en caricaturant beaucoup, mais c'est quand même le cas. On a Internet, grosso modo, grâce à Cisco, grâce à vos fameux routeurs ou tout ce genre de choses qui permettent d'avoir Internet. Vous êtes du coup une bonne vigie de la numérisation d'un pays. La France était en retard sur la numérisation de ses petites entreprises, de ses petites PME, même de certaines chaînes de vêtements ou de librairies, par exemple. Pendant la crise, là, tout le monde dit on a gagné 3 à 4 ans. Vous le voyez aussi et vous voyez une demande qui reste aujourd'hui soutenue pour se numériser parce que pour s'en sortir, il faut être présent sur Internet et puis il faut être présent également au niveau des magasins en dur.
Absolument. La crise du Covid a révélé, en fait, si on regarde ce qu'a révélé la crise du Covid, c'est un, le besoin. Alors on a parlé beaucoup de travail hybride ou de télétravail, mais il a fallu déjà s'équiper parce que ça a été quand même un moyen de soutenir quand même l'activité. Qu'on le veuille ou non. Et là, il a fallu équiper plein d'entreprises, bien évidemment, dans les PME et les TPE. Et on sent effectivement cette accélération. Mais lorsqu'on accélère sur la transformation digitale, il n'y a pas que le télétravail, il y a aussi la différenciation en termes de services. Ça amène aussi d'autres contraintes. Ça amène justement ce qu'on évoquait, à savoir des risques en cybersécurité. Donc, ça amène un peu de complexité et on voit cette accélération à nous de démocratiser tout ça, à nous d'accompagner au mieux avec nos 1200 partenaires en France pour faire que cette transformation, elle se fasse bien. Je reviens à ce que vous disiez, Emmanuel, on a gagné, en fait, ce qu'on avait prévu. Vous savez, notre métier, nous, c'est un peu de prévoir quand on fait de la conception de la R&D. On se dit, voilà ce que va donner l'Internet et la demande et les besoins dans 5 ans pour que quand on conçoive une solution, elle puisse durer dans le temps. On s'est aperçu effectivement qu'on a vu une accélération qui est globalement est de l'ordre de 3 ans en termes de rattrapage du numérique. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, bien évidemment. C'est une bonne nouvelle pour le pays aussi. La France a cette caractéristique d'aller très, très vite.
Oui, on part souvent après les autres, mais c'est vrai qu'on a tendance à les rattraper. En tout cas, merci beaucoup, Laurent Degré. Je rappelle que vous êtes le patron de Cisco en France et nous, on se retrouve lundi, 22h20.
Merci à vous, Emmanuel Dutheil. On vous retrouve également demain avec Elisabeth Assayag de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1. Et demain avec vous, il sera question de bien-être, de nos bien-être, de notre bien-être à tous, puisque vous recevrez Serge Fourcade. Il est directeur Thalasso chez Thalazur.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Avec un premier coup d'œil sur les unes de la presse demain matin, le calendrier de la fin des restrictions sanitaires, évidemment à la une de vos quotidiens demain vendredi, à la une des Échos d'abord, Emmanuel Macron fait le pari du retour à la normale. Après ces annonces ce soir de Jean Castex, les restrictions sanitaires qui seront donc levées en deux étapes, le 2 et 16 février prochain, et cela malgré la vague Omicron qui reste au plus haut. Le pass vaccinal, on vous en a parlé, entre en vigueur dès lundi prochain. Quant à lui, le climat des affaires fléchit, écrit les Échos, dans les services, mais continue de progresser dans l'industrie. À la une de Ouest-France également, ces allègements bienvenus au mois de février, et puis l'envie d'y croire. Question existentielle demain, tiens, à la une de Libé. Toubib or not Toubib, c'est le labo de campagne de Libération à l'approche de l'élection présidentielle, dans moins de 3 mois maintenant. Libé fait donc le tour des initiatives dont pourraient s'inspirer les candidats avec aujourd'hui, ce vendredi, comment la région Centre-Val de Loire salarie des praticiens pour lutter justement contre les déserts médicaux. Présidentielle toujours, à la une de La Croix, les médias doivent mieux faire. C'est l'enseignement d'un baromètre publié par La Croix. Les Français expriment de fortes exigences selon ce 35e baromètre sur la confiance dans les médias. C'est à lire donc demain dans La Croix. Enfin, l'immigration a fortement progressé en France en 2021. Gros titre à la une du Figaro demain. Les statistiques publiées ce jeudi par le ministère de l'Intérieur montrent que malgré la crise sanitaire, la France reste confrontée à une forte pression migratoire. 22h et bientôt 30 minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. C'est l'heure de la libre antenne avec Bérénice Bourgueil. Bonsoir Bérénice.
Bonsoir Alexandre.
C'est la première fois qu'on se rencontre. Moi, je suis ravi qu'on trouve cette occasion.
Écoutez, moi aussi, je suis ravi de pouvoir rester aussi longtemps pour faire votre connaissance et voir que vous avez avalé un chronomètre. 22h30, voilà, c'est nickel, c'est impeccable. Une grande première pour moi et je suis ravie d'être là.